Chapitre 57. D'après le centre des impôts, Marc Victor habitait à Verneuil-en-Alatte, à moins de 10 km de l'université Vézal. Un rapide coup d'œil sur Google Earth avait permis aux flics d'identifier une maison individuelle avec un grand terrain, au bout d'une rue qui s'enfonçait ensuite dans les bois. L'état civil, quant à lui, leur avait appris que l'ancien anesthésiste réanimateur de la Salpêtrière était divorcé depuis 2010, sans enfant. Il n'apparaissait pas sur les réseaux sociaux ni sur Internet. Juste de brèves mentions de son nom sur Google en rapport avec des articles scientifiques. Par ailleurs, il n'avait eu aucun souci avec la justice. Un bon petit citoyen modèle, au-dessus de tout soupçon. Grâce aux éléments rassemblés par l'équipe, le juge d'instruction avait néanmoins délivré en ce début d'après-midi une commission rogatoire qui autorisait une perquisition, même en l'absence du propriétaire. Dans la foulée, le groupe s'était mis en chemin et, désormais, deux voitures fendaient la campagne au nord de Paris. Le ciel était si bas qu'il semblait sous cloche. À l'horizon, les nuages d'un gris argent tournaient au noir charbon et des bandes obliques de pluie unissaient ciel et terre. Ça et là, il restait bien des feuilles rebelles accrochées aux branches des arbres nus, mais l'automne continuait son travail de sape. Franck quitta quelques secondes les yeux de la route et fixa Nicolas.
« Tu as bien fait de ne pas parler à ton avocat de la visite de Monsieur Speak. Ça n'aurait fait qu'attiser la haine qui suinte déjà de partout. Les parents d'Audra sont des êtres abjects, mais leur dessiner une cible sur le front, ce n'est pas toi.
La vie de mon fils contre de l'argent. Jamais cette histoire d'héritage ne m'avait effleuré avant. Et eux, ils me dégoûtent. »
Nicolas n'arrêtait pas de se malaxer les mains.
Je ne sais pas ce qui m'a retenu de lui sauter dessus. J'aurais pu le démolir, Franck, mais un truc au fond de moi m'a alerté. J'ai envisagé que ce salopard m'ait provoqué uniquement pour que je l'agresse. Parce que si je le faisais, je perdrais tout.
Charcot hocha la tête. Dans un sens, les propos de son collègue le rassuraient sur son état mental. En dépit de la tempête qu'il traversait, il demeurait lucide.
Ce qui compte maintenant, c'est de laisser la justice s'embourber et espérer que la grossesse aille à terme. Ça, et boucler cette fichue enquête.
Nicolas plaqua sa tempe droite sur la vitre, soudain silencieux, et regarda les arbres défiler.
Boucler une enquête pour en récupérer une autre juste après, puis une autre, et encore une autre. Tel Sisyphe avec son rocher, un éternel supplice. Serait-il encore capable de s'engager avec la même fougue qu'avant? Il n'en était plus très sûr.
Franck prit un appel, tandis que la forêt se dressait sombre, inquiétante, aux portes de Verneuil-en-Alatte, comme pour repousser l'ennemi. Il échangea quelques mots avec son interlocuteur et raccrocha.
C'était le chef du service des soins intensifs de la Salpêtrière. Ils ont fini de lister les patients dont Victor s'est occupé et qui ont subi un arrêt cardiaque. De mi-2018 à son départ de l'hôpital, 7 sont morts d'un arrêt post-opératoire et 4 autres ont été réanimés, dont Calvar et Dubois.
11 personnes, putain. Et ils se sont pas alarmés.
C'est au-dessus des statistiques, mais apparemment ça peut arriver. Victor est parti à temps pour ne pas se faire prendre.
Je suis persuadé que des gens ont eu des doutes sur son comportement, mais qu'ils se sont tus. Omerta de merde. T'imagines le nombre de vies que ce salopard a détruites.
Franck ne répondit rien. Il songea qu'il faudrait quand même rendre visite aux deux autres réanimés, histoire de s'assurer qu'il n'y avait pas d'autres tueurs de la trempe de Calvar dans la nature. Quant à Victor, certes il ne vivrait jamais assez longtemps pour payer sa dette, mais passer le reste de ses jours derrière les barreaux allait lui faire tout drôle. Les policiers traversèrent rapidement Verneuil-en-Alatte, une petite ville agréable à l'écart du monde, et atteignirent leur destination. Une construction classique des années 1980, façade en crépi, tuiles rouges, tuyas tout autour. Pas clinquante, mais bénéficiant d'un cadre extraordinaire, le genre d'endroit où les biches s'aventuraient dans les jardins au crépuscule. Ils se garèrent un peu plus loin sur le bas-côté pour ne pas attirer l'attention, et descendirent de leur voiture avec calme. Ensemble, Ils avancèrent ensuite jusqu'à la maison. Pas de véhicule dans l'allée, mais l'habitation disposait d'un garage en sous-sol. Nicolas s'était laissé distancer par le groupe, et Charcot le sentait vacillant. Facile d'imaginer que le film de la nuit du drame devait tourner dans sa tête.
« Si tu veux, tu restes à l'écart, d'accord ?»«
Je suis dans le coup, ça va. »
Franck n'était pas dupe et garda un œil sur son collègue. Les coups de sonnette ne donnèrent rien et il ne distinguait pas un mouvement derrière les fenêtres. Vu l'heure, Victor était sans doute au travail. Aucune importance, son absence arrangeait même Charcot, qui avait demandé à un serrurier d'attendre leur arrivée à deux rues de là, au cas où. Il rappela ce dernier et lui communiqua l'adresse exacte. 10 minutes plus tard, la porte d'entrée cédait sans faire trop de dégâts. Le chef de groupe préférait savoir Nicolas à l'intérieur avec lui. Il pivota vers Lucie et lui signifia qu'elle resterait dehors pour intercepter le suspect s'il se pointait.
« Vous ne bougez pas de là non plus »,
intima-t-il au serrurier. Après avoir enfilé des gants en latex, les trois policiers pénétrèrent dans un hall au carrelage clair qui s'ouvrait sur plusieurs pièces et un escalier menant à l'étage. Pascal Robillard avait sorti son PV de perquisition qu'il commençait à remplir, indiquant heure et circonstances.
« On n'embarque rien pour le moment. On recense juste les éléments qui prouvent qu'on ne s'est pas planté de bonhomme. Au boulot. »
Ils se dispersèrent aussitôt. Franck s'introduisit dans un salon de taille moyenne, en grande partie éclairé par une baie vitrée qui donnait sur la forêt. Déco minimaliste, aucun luxe, hormis un écran plat géant équipé de grosses enceintes. Un paquet de revues scientifiques traînait sur la table entre des fauteuils crapauds. La bibliothèque regorgeait également d'ouvrages techniques et de témoignages, cerveau, mémoire, expérience de mort imminente, décorporation, voyage astral. Le commandant explora aussi les tiroirs, fouilla dans la paperasse. Rien de spécial. Plus loin, il découvrit une collection de disques vinyles rangés dans un meuble bas. Du rock et de la musique classique. Beethoven, Strauss, Schubert et évidemment Ravel. Il chercha une platine, en vain. Un premier bon point. Après ça, il fit un tour dans la cuisine, inspecta le réfrigérateur, le lave-vaisselle où s'accumulaient couverts et assiettes sales. Il imagina Victor mener sa vie en toute quiétude ici. D'un côté, l'homme sortait ses poubelles, saluait ses voisins, ramassait son courrier. De l'autre, il tuait des gens à coups d'injection mortelle. Il grimpa ensuite à l'étage. Une des pièces était aménagée en bureau, encombrée de piles de livres, de casiers en métal bourrés de documents, de pochettes colorées qui jonchaient le sol. À gauche, un pan de la cloison exhibait diplômes universitaires et autres distinctions. Il s'approcha du mur du fond derrière un ordinateur éteint. Victor avait punaisé une longue feuille quadrillée sur plusieurs mètres. Ça ressemblait à un électroencéphalogramme. Au départ, des ondes intenses, très serrées et irrégulières, montraient une importante activité cérébrale, puis s'affaissaient d'un coup, jusqu'à présenter un simple trait. « La mort », pensa Franck. Elle se dressait là, devant lui, crue, avec un autre visage que dans les catacombes, mais tout aussi effrayant, celui de la science. L'enregistrement de l'activité d'un cerveau en train de mourir. Il imagina quelqu'un allongé sur une table, dans un lieu isolé, en proie aux produits injectés par Victor. Et ce bip abominable, strident et continu de l'appareil qui indiquait que tout était terminé. Ses yeux suivirent le tracé vers la droite. Là-bas, loin, très loin dans la mort, combien de secondes, de minutes? Ces quadrillages devaient représenter une unité de mesure, mais Franck ignorait laquelle. Des pointes surgissaient, des étincelles de vie au milieu du néant. D'abord, une grande, seule, comme une vague scélérate dans l'océan. Puis, une plus petite, au cœur des ténèbres. Entre ces deux pointes, au-dessus de la ligne, Victor avait inscrit en lettres capitales « Boléro ». Charcot resta là, immobile, à s'interroger sur le sens de ces sursauts électriques. Il ne comprenait pas non plus ce que le boléro de Ravel venait faire dans tout ça. Il rejoignit son procédurier dans la chambre juste à côté. Remarqua seulement une lithographie près du lit, un truc moche avec des carrés et des cercles partout. Pascal était monté sur une chaise. Il balayait avec sa main le dessus du dressing qu'il avait déjà dû explorer vu que les portes étaient ouvertes. On discernait des rangées de costumes, des chemises et des blouses blanches pliées.
« Alors ?» demanda Charcot. « Attends deux secondes !»
Le lieutenant grimaça, se grandit en se hissant sur la pointe des orteils et tira un carton vers lui.
« Je m'en doutais. Il y avait des traces de pieds de chaise sur la moquette. »
De la boîte, il sortit deux objets que son supérieur reconnut immédiatement. Le masque de mort vu dans les catacombes et le pull noir orné du sigle dont les cinglés étaient vêtus.
« Putain, on le tient !» lâcha Franck. « Continue la perquise. Je file avec Lucie au centre de recherche. S'il est sur place, on l'interpelle direct. »
Pascal lui donna une tape sur l'épaule d'un air satisfait, puis prépara son appareil photo et sa paperasse pour consigner sa découverte. À ce moment-là, Nicolas apparut. Il avait le visage de ceux qui ont vu l'impossible.
« Vous devriez venir voir. C'est incompréhensible. » « Me dis pas qu'il est mort. Non, c'est autre chose. »
Ils le suivirent sans un mot. En bas de l'escalier menant au sous-sol, le lieutenant de police guida ses collègues au fond d'un couloir, puis franchit la porte qui menait à l'endroit où devait d'ordinaire stationner un véhicule, vu la flaque sombre et poisseuse d'huile par terre. On apercevait à l'autre extrémité de cet espace l'accès à une seconde pièce, plus petite.
Il y avait des planches de contreplaqué posées devant l'entrée et tenues par un gros meuble qui dissimulait l'ensemble.
Il s'agissait pourtant d'un atelier de bricolage des plus classiques, avec sa ribambelle d'outils accrochés au mur et dans lequel on pénétrait en se baissant un peu. Ce qui était peu ordinaire, c'était la présence d'un écran d'ordinateur allumé, installé au milieu d'un établi en bois, branché au secteur et relié à une unité centrale qui ronronnait. Celui-ci affichait ce qui ressemblait à une fenêtre de discussion, lettres blanches sur fond noir. Franck s'approcha et se figea net, comme s'il avait reçu un mauvais coup dans l'abdomen. Dans un premier temps, il refusa de croire que ce qu'il lisait puisse être réel. Il regarda sa montre, incrédule, pour comparer l'heure et les minutes qu'elle indiquait avec celle qui s'inscrivait chaque fois qu'un message arrivait. C'était bien une conversation instantanée. 16h17min23s. E. Doty. Noir. Peur. Noir. Peur. Noir. 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 16h18min36s. E. Doty. Gratter oreille. Gratter le bras. Gauche. 16h19min7s. E. Doty. Charbon rose, fleur du mal, méchante bave, tête, pas toute. 16h20min11s. E. Doty. Pitié, 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 pitié. Franck se tourna vers ses collègues qui avaient l'air aussi paumés que lui.
« C'est quoi ce bordel ?»